Jusqu'à ce dimanche, les saisons baroques du Jura, une sorte de première sous la direction artistique de Vincent Dumestre, qui est aussi le patron du poème harmonique. Et d'ailleurs, on a l'occasion d'entendre le poème harmonique en création. Mais évoquons le concert de ce vendredi, alors donné à Arlet dans l'église Saint-Vincent, par la Capella Mediterranea Leonardo Garcia Alarcón. Un programme que vous avez déjà eu l'occasion de proposer aux auditeurs depuis un moment maintenant. Et si le festival se propose de nous emmener beaucoup en Amérique du Sud, vous, c'est à Venise que vous nous proposez de nous rendre.
Oui, c'est un rêve d'une nuit vénitienne, on l'appelait, une évocation aussi à Shakespeare. Alors que ces sognos, d'une certaine façon, puissent amener les publics à l'histoire de la naissance de ce qu'on appelle l'opéra autour de 1585, autour des compositeurs, des chanteurs comme Giulio Caccini, notamment à Rome, et que ces compositeurs puissent d'une certaine façon nous montrer comment même les chansons d'aujourd'hui sont simplement une invention et lyrique de ces moments-là, où la mélodie avec une simple basse qui l'accompagnait et a pris le dessus sur la polyphonie, c'est-à-dire sur les pièces qui avaient beaucoup de voix. Et dans ces sognes, on commence vraiment à Rome, mais plus, on se déplace très très vite à Venise, bien sûr, où de la main des compositeurs comme Monteverdi ou Cavalli, qui sont les premiers compositeurs de l'opéra public vénitienne et les premiers opéras publics au monde en 1637, et aussi de la main de Barbara Strozzi, élève de Cavalli à Venise, une des premières femmes compositrices. On va connaître ces chemins et comment au XVIIe siècle, vraiment, ce qu'on appelle aujourd'hui la chanson, mais à quelle époque on appelait aria ou arietta, va créer avec des poésies uniques des plus grands poètes vénitiens et romains de l'époque, et un miracle musical que j'aimerais partager avec les publics.
Alors, à vos côtés, Mariana Flores, est-ce que vous affirmez aussi cette forme de filiation, finalement, entre le répertoire baroque et la chanson, comme vient de le faire Leonardo Garcia Alarcón?
Évidemment, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi-même, je suis quelqu'un qui chante aujourd'hui beaucoup de la musique d'aujourd'hui, de la musique folklorique argentine, et je sens vraiment un lien. Je peux pas dire comment l'expliquer, mais si je chante Amarilli, Mia Bella de Caccini, et je reviens et je chante El Mar de Ariel Ramírez, une composition écrite dans le XXe siècle, et je sens qu'il y a un lien qui n'est jamais coupé, en fait. Et il s'est développé des autres façons, évidemment, à travers l'harmonie, les différentes périodes de la musique, de la musique académique, comme on connaît. Mais finalement, le petit ADN, il est toujours là. Alors, je suis vraiment d'accord avec Leonardo et je pense que dans ce programme qu'on va donner vendredi à Arlet, il y a beaucoup de belles émotions proposées, évidemment, pour ces compositeurs comme Caccini, Frescobaldi, Cavalli, Monteverdi, Strozzi, à laquelle je suis très attachée, surtout à cette compositrice Barbara Strozzi, qui je pense que c'est un peu mon... Je ne sais pas. Je me sens vraiment que c'est quelque chose que ça me va très bien.
Mais Mariana Flores, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à ce répertoire baroque? Je vais peut-être au-delà de votre pensée, mais sans avoir envie d'aller vers les grands opéras qui viennent plus tard, Verdi et beaucoup d'autres.
Je pense que si il y a une condition vocale et naturelle, évidemment, ma voix, elle n'était pas faite pour chanter des Monteverdi, Puccini, des grands rôles. J'aurais bien aimé quand même. Mais je pense que ceci, ma nature, physiquement, physiologiquement, et aussi mon âme, elle est très attachée à la musique baroque. Alors je pense que on s'est retrouvés comme ça quand j'étais très jeune. J'avais 19 ans. C'était la première fois que je commençais à connaître les compositeurs comme Downland, Monteverdi, parce que à cet âge-là, la chose plus tardive que je connaissais, c'était de Bach ou de Handel. Quand je fais la découverte de cette musique, je je dis, mais ça c'est quoi? Ça, c'est une chose que ça me parle vraiment.
Du côté de ceux qui pratiquent la musique baroque, on nous parle beaucoup d'une nouvelle manière d'interpréter. On ne le fait plus aujourd'hui comme on le faisait encore dans les années 80. Alors vous qui avez travaillé avec John Elliott Gardiner, avec Christina Pluart, l'arpeggiata, Vincent Dumestre aussi, Gabriel Garrido, je peux pousser jusqu'au Parlement de musique de Martin Gester. Est-ce qu'ils ont tous, au fond, évidemment, Leonardo Garcia Alarcón, est-ce qu'ils ont tous la même manière d'aborder ce répertoire baroque, vous qui les connaissez?
Non, pas du tout. Et je sens que ça, c'est la richesse, non? Que chacun d'eux, ils ont sa façon de voir cette musique. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que sinon, ça serait très ennuyeux de faire toujours avec des différents chefs, faire la même façon de faire la musique. Je pense que ça, c'est la richesse humaine, que chacun a ses points de vue et ses émotions aussi, parce que nous, comme musiciens, on met aussi notre propre expérience de vie. Et ça donne aussi l'interprétation qu'on va donner. Alors, je trouve que ça, c'est fascinant, de que chacun des musiciens avec qui j'ai travaillé, chacun d'eux, ils sont différents, et chacun d'eux, ils ont leur propre personnalité.
Léonard de Garcia, vous vous sentez différent?
En fait, je n'ai jamais réfléchi à cela. parce que d'abord, j'écoute pas mes disques et c'est difficile à me comparer avec d'autres chefs. J'ai des grandes admirations par beaucoup de chefs, mais savoir laquelle est la chose qui est différente entre moi et eux, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Et pas simplement par une fausse modestie, mais ça a à voir avec avec la manière avec laquelle un chef de la musique baroque interprète une poésie. Ça veut dire que plus que jamais, le mot interprétation dans la musique baroque est plus important que, par exemple, qu'il y ait une symphonie de Mozart ou un requiem de Brahms, où vraiment il existe vraiment des interprétations. Mais quand même, dans notre musique, c'est une musique qui est dirigée par la poésie. La poésie dirige tous les éléments musicaux. Alors, ce n'est pas simplement les aspects et les paramètres en musique, sinon que c'est ce qu'une poésie vous dit. Alors, vous, comme chef, vous êtes bouleversé par une poésie, alors votre interprétation le sera aussi. Et ça varie. Ça veut dire que notre interprétation varie d'un soir à un autre, comme dans un opéra. Je ne pourrais pas dire dans quoi je pourrais être différent ou unique, mais je pense que c'est surtout dans la manière avec laquelle chaque être humain et interprète un texte poétique.
Leonardo Garcia Alarcón, qu'entend-on dans ce programme donc proposé vendredi soir à Arles?
Alors, dans ces Sogno de la Notte Veneziana, on pourra entendre les pièces de Giulio Caccini, 1685, Rome, au tout début. Le premier musicien qui a commencé à chanter en première personne, c'est-à-dire qui a incarné par exemple l'Orfeo, et autres personnages. Avant, cela n'existait pas et cela a donné naissance à l'opéra. Alors, on se déplace immédiatement au royaume de Claudio Monteverdi, que vous savez que c'est le compositeur qui a écrit les premiers opéras. Alors, on va entendre plusieurs pièces de lui composées à Mantova et à Venise. ville où il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Plus tard, Francesco Cavalli, qui fait partie de la nouvelle génération, avec des mélodies qui nous portent et qui continuent à nous faire aujourd'hui comprendre qu'il est le Mozart du XVIIe siècle, c'est-à-dire un compositeur qui a une ligne mélodique tellement classique et que n'importe quelle personne peut être entraînée, qui est un des plus grands. On garde 27 opéras à lui, on essaiera de faire un choix entre ses pièces. Et plus tard, Girolamo Frescobaldi aussi, qui n'est pas connu par ses pièces vocales généralement, il est connu comme l'organiste du Vatican, mais ici on montrera plusieurs arietas et chansons à lui, et on finira avec Barbara Strozzi, justement cette chanteuse et compositrice extraordinaire, fille de Giulio Strozzi, librettiste de Claudio Monteverdi, des opéras de Claudio Monteverdi à l'époque, et une des premières femmes qui a édité de la musique et qui a joué elle-même sa propre musique. Alors, dans la voix de Mariana Flores, tout cela, ce sera un pur enchantement.
Bon, merci. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est toujours le même plaisir et on se surprend même de nous-mêmes, de la richesse de cette musique. Et elle est inépuisable, on dit comme ça en français. Vraiment, elle a une richesse éternelle, je trouve.
Comme l'autre, et pour cause, vous connaissez bien la musique sud-américaine, une musique que se propose d'ailleurs de faire découvrir Vincent Dumestre dans une partie du programme du festival. Est-ce qu'on peut dire que le point commun finalement entre la musique vénitienne et la musique de Bolivie, d'Argentine de l'époque, c'est au fond la musique espagnole?
Bien sûr, parce que aussi l'origine de la monodie accompagnée, ça veut dire Et l'origine de l'opéra, c'est aussi la musique composée à Naples et en Sicile, et qui était à cette époque l'Espagne. Alors c'était le territoire espagnol. Alors il y a un mélange énorme des traditions de musique espagnole et du sud de l'Italie qui ont fait justement naître l'opéra et qui ont continué à exister dans nos musiques populaires. Et jusqu'à aujourd'hui.
Ça veut dire que ces musiques-là se sont plus perpétuées dans la tradition populaire là-bas qu'on l'a fait en Europe.
Et je pense que c'est perpétué aussi à travers les siècles sans arrêt. Il ne faut pas oublier que l'Europe a eu le mouvement romantique qui était très très fort et d'une certaine façon a marqué ces continents, mais en Amérique latine, on n'a pas eu de romantisme. Alors on vit dans un éternel baroque. Et c'est cela qui fait que les formes baroques et les instruments aussi continuent à exister dans notre musique populaire comme quelque chose d'absolument naturel.
Découverte récente pour beaucoup de musiciens européens et encore plus pour nos éditeurs. Alors je ne sais pas qui de vous deux aura envie de répondre à cette question-là, mais est-ce que ça veut dire qu'il reste beaucoup encore à découvrir dans cette musique d'Amérique du Sud?
Oui, Mariana et moi, on sait très bien que presque la totalité de la musique baroque latino-américaine est encore enfermée dans les églises et dans les archives.
Même en Argentine aujourd'hui, il y a beaucoup de musique chorale, et que dans les chorales, là-bas, l'Argentine, comme vous le savez, ou peut-être pas, c'est un pays, il y a beaucoup de chorales, et des maîtrises d'enfants et des jeunes, et ils font beaucoup ce répertoire-là de la musique baroque, de tous ces compositeurs qui sont arrivés avec les jésuites et qui ont essayé de faire une école académique de musique en Argentine. Et aujourd'hui, même tous les chorales, les maîtrises, ils font pas mal de partitions, mais il y a beaucoup, beaucoup encore à découvrir, évidemment.
Les saisons baroques du Jura, donc jusqu'à dimanche. Alors évidemment, on va insister particulièrement, mais il y a 5 concerts en tout, sur le concert de vendredi à Arlay dans l'église Saint-Vincent avec la Capella Mediterranea. Sous votre direction, Leonardo Garcia Alarcón avec Mariana Flores. Et évidemment, tous les programmes sont sur le site du festival et on met les liens sur le site de BFC Classique.